Quand je pensais à ce que ce livre pourrait m'amener, je me suis dit, tiens, sûrement des belles discussions avec mon éditeur. Parce que c'est lui qui a choisi le texte, donc forcément, on devrait avoir des discussions sur tel ou tel choix, l'intention derrière une phrase, des choses comme ça. Je me suis dit, peut-être, s'il se rend jusque-là, des beaux échanges avec les lecteurs ou les lectrices. J'ai plus honte de le dire, mais jamais j'ai pensé au libraire. Jamais. Et aujourd'hui, je me rends compte que parmi les gens qui m'ont mis à plus d'une reprise les larmes aux yeux, il y a souvent eu des libraires. Et voilà, je pense que quand j'écrirai le deuxième roman, je penserai un peu plus à eux.
Bienvenue à la librairie Cochot qui met en valeur le travail des libraires. Voici votre animateur, René Cochot.
Ici René Cochot, bienvenue à cette émission consacrée au travail des libraires et des librairies. À la librairie Cochot, on essaie toujours d'être à la page. Voici le menu pour cette semaine. Une entrevue avec David Marchand, le directeur de la librairie de la coopérative de l'Université de Sherbrooke. Une entrevue avec Mathias Carpula concernant son roman « Le vol fragile des croyances » paru chez Tête Première. Isabelle Dion de la librairie Aninorak commente le roman « Dieu n'est pas là aujourd'hui » de Francine Cunningham. L'autrice Michel Plummer et l'auteur André Jacques rendent hommage aux libraires. François-Alexandre Bourbeau de la librairie Libère et Gabriel Richer de la librairie de la Coop de l'Université de Sherbrooke nous parlent de la nouvelle rentrée littéraire. Nicolas, libraire à Lille, en France, nous parle de sa passion pour son métier. Anne-Marie Villeneuve des éditions Druide présente l'album « Courage, William, Courage » de Bertrand Gauthier et Cab, nouvellement arrivé en librairie. Un micro-trottoir mené à Strasbourg, en France, en 1964, auprès de libraires qui parlaient de ce que les touristes achetaient comme livres dans leur commerce. Et Gabriel Fliguer de la librairie Vivement Dimanche à Lyon, en France, s'exprime sur son métier. Bienvenue à la librairie Cochot.
Au bout de la rue, une petite lumière et l'odeur des vieux livres dans l'air du soir. Chaque samedi matin, je passais par là. Une cloche à la porte me disait bonjour déjà. Les rayons de bois clair portaient mille voyages et des mondes entiers cachés dans les pages. Je restais des heures sans voir passer le temps, avec un livre ouvert et le cœur d'un enfant. Tout semblait plus grand dans ce petit endroit, et chaque histoire marchait avec moi. La petite librairie au coin de ma vie, la petite librairie vit encore aujourd'hui. Les rêves d'hier, les mots de lumière, la petite librairie dans mon cœur. Les saisons ont passé comme passent les trains, et la rue a changé avec les lendemains. Mais je revois encore la vitrine éclairée et les romans rangés comme de vieux amis. Entre les étagères, je cherchais l'avenir, sans savoir que déjà je crée mes souvenirs. Tout semblait plus grand dans ce petit endroit, et chaque histoire marchait avec moi. La petite librairie au coin de ma vie, la petite librairie vit encore aujourd'hui. Les rêves, un livre peut parfois je reviens doucement dans cette petite rue de mon printemps. La petite librairie au coin de ma vie. La petite librairie vit encore aujourd'hui. Les rêves d'hier, les mots de lumière, la petite librairie reste dans mon cœur. Les années s'en vont, mais les pages demeurent. La petite librairie garde mes couleurs. La petite librairie au fond de ma mémoire.
Je poursuis à la librairie Cochot ma série d'entrevues avec des libraires. Question de montrer toute la diversité des formes que peuvent prendre les librairies. Et j'ai choisi cette semaine de m'entretenir avec David Marchand, qui est le directeur de la coopérative de l'Université de Sherbrooke. Bonjour.
Bonjour René, ça va bien?
Ça va très, très bien. Alors, démystifions un peu dans un premier temps. Qu'est-ce qui différencie une librairie traditionnelle, indépendante, d'une librairie sous forme de coopérative?
Oui, bien, le nom le dit, on est une coopérative. Ce que ça signifie, en fait, c'est qu'on appartient à nos membres. Nous, on est une coopérative d'achat. Donc, essentiellement, c'est les étudiants, sans surprise, qui deviennent membres pour avoir le droit à des rabais sur leurs achats. En fait, c'est la ristourne que nous, on offre, là, de vendre les livres moins chers. Et donc, l'avantage, c'est qu'on est aussi une entreprise qui est démocratique. Donc, il y a un CA qui chapeaute les opérations. Puis, les CA eux-mêmes, bien, ils sont élus par les membres qui vont à l'AGA annuelle une fois par année. Puis, quand il y a des sièges qui sont ouverts, bien là, il y a un vote en fonction de qui se représente. Puis, c'est un peu tout le monde un peu qui sont représentés là, sur le campus ici. Donc, qui sont sur le CA. On a des gens là, de la communauté professorale. On a des étudiants qui représentent, dans le fond, les associations. Voilà, c'est très démocratique. Puis, quand il y a des enjeux, la structure là, permet justement au niveau de la gestion, de faire passer le message puis d'appliquer les correctifs de façon très efficace.
Dans l'imaginaire des gens, une librairie dans une université, qu'elle soit sous forme de coop ou non, c'est d'abord et avant tout pour la clientèle étudiante. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça dans la perception qu'on peut avoir de la librairie de la coop.
Absolument. C'est sûr que les gens, vu qu'on est sur la colline universitaire, ont l'impression tout le temps qu'on est un peu dans cette tour d'ivoire-là, mais nous, on est ouvert au public. En fait, ce n'est pas juste les étudiants qui viennent ici. On est une librairie générale agréée ici sur le campus. Donc, on a de la clientèle là, qui vient pas juste de la clientèle universitaire, des gens qui viennent de l'extérieur. Puis, on dessert aussi là, les institutions publiques là, à cause de notre service aux collectivités. On n'a rien à envier à aucune autre librairie là, en termes d'offres puis de variétés de titres. On reçoit les nouveautés puis on fait la sélection comme toutes les autres librairies. Donc, on est très, très fiers de notre sélection ici en magasin. Évidemment, on vend aussi les livres scolaires, ce qui nous donne une spécialisation au niveau technique. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'ouvrages techniques. Fait qu'on peut porter fièrement ici à la coopérative là, le titre de librairie générale parce que c'est pas juste de la littérature générale. On dépasse ça avec des livres techniques. Puis, on a aussi une librairie spécialisée médicale au CHU. Puis, on a une autre succursale au campus de Longueuil aussi.
Il n'y a pas que des livres qui sont vendus ici à la coop. Est-ce que les gens sont capables de faire la part des choses dans le sens où ils considèrent que c'est d'abord et avant tout une librairie?
Bien, en fait, c'est pas toujours clair pour notre clientèle, puis on le sait où est-ce que commence la coopérative, où est-ce que finit la coopérative. Il y a bien évidemment la librairie qui est très importante. Ça reste notre core business, comme on dit en bon français. Mais aussi, bien, c'est nous qui s'occupons de faire la conception et la vente des articles à l'effigie de l'université. Donc, on a un département promotionnel. Donc, on fait pas juste les ventes ici en magasin. On travaille main dans la main avec l'université pour choisir les produits, etc. Et puis aussi, bien, on on prend, sans surprise, on prend aussi les commandes de la clientèle en général, c'est-à-dire les départements, les associations, ils ont des projets, donc ils veulent faire des articles promotionnels sur mesure. Pour eux, bien, on prend les commandes. Puis on a de plus en plus de clientèle à l'extérieur aussi. Fait qu'il y a ça. Et puis il y a toute la vallée alimentaire, Café Cause, qui est la même entreprise que nous. Il y a une fusion là, au début des années 2010. Donc on est rendu une seule et même entreprise. Bon an, mal an, on approche la centaine d'employés là, en tout. Là.
Est-ce qu'une coopérative comme celle d'ici à l'université a des obligations de rentabilité?
Tout à fait, absolument. On travaille fort à chaque jour, on prend des décisions bon an, mal an, là, pour il faut être rentable parce que nous, on est une coopérative, on est indépendant un peu de notre institution mère. Donc, nous, on est locataire ici, il faut payer notre loyer, il faut payer nos employés, etc. Donc, il n'y a personne qui arrive et qui nous dit, bon, vous ne faites pas d'argent, on ne va pas recevoir un chèque là, en blanc. Là. Donc, on a les mêmes obligations. C'est juste que nous, en fait, en tant que coopérative, dans le cas où il y a un profit, bien, ce profit-là, nous, il est réinvesti simplement dans la coopérative. Et puis, il est aussi émis sous forme de ristourne sur les prix, comme j'ai dit.
Bon, vous ne faites pas partie du réseau des libraires, mais vous êtes membre d'une fédération.
Nous, on ne fait pas partie de l'Association des librairies indépendantes du Québec parce qu'on fait partie, en fait, de la FQCMS, la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire, simplement.
Et une librairie agréée, qu'est-ce que ça veut dire?
Librairie agréée, bien, il y a une loi qui a été passée sous le gouvernement Lévesque là, à la fin des années 70, début 80. Cette loi-là, elle avait plusieurs objectifs, notamment d'alphabétiser puis de diffuser la culture dans les régions. Donc, c'est une loi qui a été mise en place avec des prérequis pour être une librairie agréée. L'avantage d'être une librairie agréée, c'est que tu as le droit de vendre aux institutions publiques. Une librairie qui n'est pas agréée ne peut pas vendre, par exemple, aux bibliothèques ou aux écoles. Donc, c'est ça l'avantage. Puis nous, en échange, pour être agréé, bien, on doit s'assurer de remplir notre rôle de libraire, donc d'avoir les dernières nouveautés, d'avoir des quantités de titres en fonction des catégories de livres. Donc, une liste de prérequis pour avoir droit à notre agrément. Donc, voilà.
Transportons-nous à Strasbourg, en France. Voici un extrait d'un micro-trottoir enregistré auprès de libraires en 1964. Une vidéo produite par l'Office national de radiodiffusion-télévision française de Strasbourg, vidéo disponible dans les médias sociaux. Et il y a question dans ce micro-trottoir des achats de livres par les touristes. Alors écoutons les réponses des libraires lorsque questionnés à ce sujet.
Nous sommes dans une des artères les plus passantes de Strasbourg. Les touristes doivent donc la parcourir. Est-ce qu'ils s'arrêtent, monsieur, dans votre librairie pour acheter un livre?
Sûrement, mais vous savez, il y a touristes et touristes.
Bon, des livres à proprement parler, non. Des cartes, des guides, des plans de la région ou de la ville, c'est à peu près tout.
Mais faut-il en conclure hâtivement que le touriste ou que l'homme en vacances ne lit pas?
Ah si, certainement, mais où il a fait sa provision de livres chez son libraire avant de partir. Et puis, ici, à proprement parler, non, il n'achète pas de livres dans une ville où il passe, ou bien son journal éventuellement, ou un livre de poche.
Il s'intéresse d'abord au guide bleu, et ensuite nous demande des ouvrages sur l'Alsace, par exemple l'art en Alsace, ou encore d'autres ouvrages plus spécialisés.
Est-ce qu'il arrive également qu'une clientèle de passage s'adresse à vous afin de vous demander des livres qui ont une certaine cote, mais qu'ils considèrent comme livres de vacances?
Certainement. Des ouvrages tels que Dan Inos ou encore des ouvrages en général sur le Moore ont énormément de succès. Et puis il y a aussi le côté détente, le roman policier.
En dehors du temps des vacances, peut-on dire qu'ici en Alsace, on lit beaucoup?
Oui. Je crois que Strasbourg est connue pour être une ville aux activités culturelles assez poussées. Et du fait même, on lit beaucoup.
Donne-moi tes mots, j'en ferai des poèmes. Dis-moi les choses que seule la lune entendra. Donne-moi tes mots, j'en ferai des poèmes. Dis-moi les choses que seule la lune entendra. Donne-moi tes mots, j'en ferai des poèmes. des choses que seule la lune entendra. Donne-moi tes mots, j'en ferai des poèmes. Dis-moi les choses que seule la lune entendra.
Elle est libraire à la librairie Aninorak et elle se spécialise dans la littérature autochtone. Isabelle Dion.
Isabelle Dion, bien le bonjour.
Bonjour.
Isabelle, je suis toujours agréablement surpris par la quantité de livres qui sont publiés d'auteurs autochtones et on va s'intéresser à un livre d'une autrice Cree de l'Alberta. Le titre du livre, c'est « Dieu n'est pas là aujourd'hui ». Alors, fais-nous découvrir cette autrice.
Francine Cunningham, c'est une très jeune autrice qui travaille en éducation en Alberta et qui a à son actif un recueil de poésie qui s'appelle « On Me », donc en anglais, qui a vraiment fait sensation au niveau du Canada anglais. Et elle a aussi un album jeunesse qui vient tout juste de sortir, toujours en anglais, donc peut-être qu'éventuellement il sera traduit. Mais dans tous les cas, les éditions Aninorak, eux, ont mis la main sur le seul livre de fiction qu'elle a écrit jusqu'à maintenant, « Dieu n'est pas là aujourd'hui », qui est une traduction de Sylvie Nicolas. Et c'est un recueil de nouvelles. Mais c'est un recueil de nouvelles, mais c'est pas mentionné d'emblée que c'est un recueil de nouvelles. Du moins, c'est pas sur la couverture parce que on se rend compte, plus on lit les nouvelles de ce livre-là, que ça se lit en fait comme un roman.
Okay.
Parce qu'il y a des éléments vraiment clés qui reviennent dans chaque nouvelle. Il y a des personnages qui reviennent. Il y a aussi des éléments thématiques aussi qui reviennent. Et en même temps, chaque nouvelle est absolument déconcertante parce qu'on est vraiment dans des univers similaires, mais aussi très différents en même temps. C'est dur à dire parce que c'est vraiment des nouvelles qui sont mystérieuses, qui sont déstabilisantes. Ben, en fait, la propriétaire des éditions Aninorak, elle l'a décrit, en fait, quand elle m'en a parlé pour la première fois, de « Mon fantôme d'amour, mais version autochtone », ce qui m'a bien fait rire.
Hein.
ça m'a bien fait rire. J'ai compris tout de suite en lisant certaines nouvelles parce que oui, effectivement, c'est des histoires de fantômes, mais pas de façon classique, c'est-à-dire que c'est des histoires dans lesquelles les personnages sont vraiment placés dans des positions où ils doivent prendre des décisions, des positions qui sont inconfortables pour l'être humain. C'est un peu des histoires de rédemption, si on veut, parce que effectivement, il y en a qui vont pas faire nécessairement les bons choix.
Okay.
Mais c'est vraiment, mais vraiment un livre d'atmosphère qui est incroyable. C'est pas un livre qui fait peur en soi. C'est plus un livre qui fait sourire parce qu'il y a quand même l'humour qui vient équilibrer le tout. Mais somme toute, il y a quand même un peu de lumière et c'est ça, je pense que l'humour joue un très grand rôle dans ce livre-là. Puis je trouve vraiment que ce livre-là, c'est qu'il est vraiment, selon moi, à l'image de ce que sont les littératures autochtones aujourd'hui, c'est-à-dire tourner surtout vers la littérature de genre. C'est inventif, c'est original, c'est traversé par un humour qui vient justement alléger un peu les thématiques qui sont abordées, qui sont parfois plus lourdes. Donc, tout en gardant une écriture sensible et originale. Donc, pour moi, c'est un livre qui est très important. Puis, je considère qu'on est très chanceux de pouvoir mettre la main dessus en français. Et ma foi, l'objet en soi, si vous avez l'occasion de le prendre dans vos mains, il est absolument magnifique. La couverture est magnifique. Tout est... Ben, je suis vendue pour vrai. C'est un très bon travail que Francine Cunningham a fait et Sylvie Nicolas aussi pour la traduction qui n'a pas dû être facile, en fait.
Oui, effectivement, le travail de traduction pour ce type d'ouvrage, j'imagine, est essentiel.
Oui, tout à fait, d'autant plus que dans « Dieu n'est pas là aujourd'hui », il y a vraiment une mise en page qui est particulière à certains endroits. Ça peut influencer la traduction aussi, la compréhension du livre. Donc oui, effectivement, c'est sûr qu'il y a eu un petit défi. Mais bon, s'il y a bien quelqu'un qui est capable de relever ces défis-là, c'est Sylvie Nicolas qui est quand même dans le milieu littéraire depuis plusieurs années. Donc bravo, chapeau à toute l'équipe.
Alors, on remercie évidemment les éditions Aninorak de nous faire découvrir cette autrice, Francine Cunningham, Dieu n'est pas là aujourd'hui, une version autochtone crie de mon fantôme d'amour.
Exactement. Je trouve que c'est un beau slogan, c'est attirant comme phrase.
Merci beaucoup, Isabelle.
Merci.
Alors, je suis Michelle Plummer, je suis autrice. J'adore les libraires. En fait, vraiment, les libraires, pour moi, ce sont les premières et les premiers ambassadeurs de notre livre. Ils sont, à prime abord, des amoureux de la lecture et des personnes qui ont une curiosité, qui ont une ouverture par rapport à la littérature, je dirais pas la littérature nouvelle, mais les nouvelles parutions. Donc, ils sont au courant de ce qui intéresse la communauté et ils sont capables de faire des liens entre la littérature solide et les événements et les préoccupations de la population à un moment donné aussi. Donc, ce sont des ambassadeurs du livre, mais ce sont aussi des ambassadeurs d'une transmission de la pensée. Il y a des liens de cœur, il y a des libraires avec qui on a des atomes crochus, les auteurs, les autrices, et des libraires qui tombent en amitié ou en amour avec notre travail, avec notre œuvre, avec notre univers, et qui se font comme une petite anecdote à la librairie Vaugeois. Ils avaient, quand HKPQ, mon deuxième roman, était sorti, ils s'étaient lancé un défi entre libraires. À l'époque, il y avait un garçon, puis les autres étaient des filles entre elles, en fait, pour vendre le plus d'HKPQ dans la journée, là. C'est ça. Parce qu'ils me découvraient, ils découvraient un univers. Il découvrait une Chine racontée autrement et il voulait la partager avec leurs clients, avec leurs amis, finalement. Donc, il y a nous qui avons une relation avec les libraires, mais il y a les lecteurs, les clients aussi, là. Un bon libraire, là, téléphone à sa cliente pour lui dire « Écoute, j'ai un livre qui vient de rentrer pour toi, là. » C'est ça, un libraire, là. Ouais.
Un poète ne vit pas très longtemps. Il se croque la vie à pleines dents. Brûle toute cartouche en même temps, se moquant des faux culs, des faux semblants. Un poète ne vit pas très longtemps. Un poète ne vit pas très longtemps. Si vous l'avez cru voir vieillissant, son fantôme, son spectre, assurément, ou sa dernière blague d'étudiant, un poète ne vit pas très longtemps.
Écoutons François-Alexandre Bourbeau, libraire à la librairie Libère à New Richmond.
Que pensez de la rentrée littéraire actuelle? Est-ce qu'il y a un titre, par exemple, à ne pas manquer? On dirait que l'offre de nouveautés propre à chaque période de rentrée littéraire grandit sans fin. C'est joyeusement étourdissant. Un des plaisirs coupables de remplir des grilles de commandes, de précommandes, en fait, des nouveautés, ça s'appelle les prénotés, c'est de savoir ce qui s'en vient dans le demi-secret. Ça, on dit généralement un 3 mois à l'avance, là, avant qu'un livre soit mis en marché. Donc, un titre à ne pas manquer, ben moi, j'attends avec impatience le nouveau Christian Guépoliquin, Le Mur. Il y a le nouveau Dominique Fortier également, Chambre Noire. J'attends aussi avec impatience le nouveau tome de la série BD Lightfall, le 4e tome. Puis, je suis tombé par hasard sur une nouveauté que j'ai découverte tout bonnement qui s'appelle L'architecte romaine de Melania G. Mazzucco. Et ça semble assez fabuleux, merci. Donc, c'est pas un livre que je surveille autant qu'il me soit tombé dans l'œil, qui me donne vraiment hâte de le découvrir.
«
veulent nous faire croire que le grand amour durera toujours. Qu'est-ce que ça peut faire le temps qui court? Qu'est-ce que ça peut faire un an, un jour? Oh, dis, qu'est-ce que ça veut dire le grand amour? Qu'est-ce que ça veut dire?
Un autre chapitre de votre émission, La librairie Cochot, dans un instant. Vous écoutez l'émission littéraire La librairie Cochot.
Il est un poète disparu il y a 2 ans, qui était mon ami et qui m'avait demandé de chanter cette chanson qui était de lui. Voici d'Alain Leprestre, le café littéraire. Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Vaut mieux aller en face, chercher la dédicace d'un académicien. Son premier manuscrit fut à la bombe écrit contre sa devanture. Au café littéraire, on a déjà les vers à porter l'écriture. On s'est pointé à 20 en habit d'écrivain, on s'est assis en cœur. Un roman ébauché, visiblement caché sous un verre de liqueur. Depuis quand on y cause, on sait que c'est en prose, que c'est quand même plus chouette. On commande son litre comme on choisit un titre dans sa bibliothèque. Au café littéraire, on s'y prend déjà l'air d'être au Petit Larousse. On pose en attendant le jour où nos 20 ans seront cotés en bourse. On porte des écharpes, on écrit sur les nappes, on brise les pianos, on crie le bar à boire, on payera plus tard. en coupure de journaux. Café littéraire, n'y a guère que la tourlière qu'aime pas la lecture. Mais les lignes des paumes, elle t'en lirait 20 tomes au travers des ratures. Quand le bateau est ivre, qu'on a bu tous les livres, on repart en carafe. Comme on paye cul sec, on déduit sur le chèque le prix de l'autographe. Chauffeur à l'horizon, on s'affale du long sur nos chevaux à voile. Le vent vient allumer le bout d'un cachenet au briquet des étoiles. Au matin pêle-mêle, froissés dans les poubelles, des hommes emporteront des chefs-d'œuvre en friche sur du papier sandwich et des nappes en crépon. Mon café littéraire suivi l'itinéraire, c'est sous le dernier porche. Juste après la virgule, c'est troquet qui recule à mesure qu'on s'approche. Où l'arbre sur le seuil sème comme un recueil ses feuilles de brouillon. Et où ses branches peignent en ombre sur l'enseigne le chapeau d'Aragon.
Le vol fragile des croyances, c'est le titre du plus récent roman de Mathias Karpula. Ce roman traite du combat pour se faire accepter pour ce qu'on est, mais aussi des rencontres imprévisibles, de l'amitié et de l'importance de choisir sa famille au-delà du lien de sang. C'est ainsi que se résume ce roman. Voici une partie de l'entrevue que j'ai réalisée avec Mathias Karpula pour la librairie Cochot. Bonjour Mathias.
Bonjour René.
Mathias, la quête identitaire que l'on retrouve là dans le vol des croyances, en fait, c'est central et dans votre écriture et dans votre vie.
Oui, ça passait peut-être avant dans des histoires inspirées plus par mon parcours migratoire ou de rencontrer, depuis que je suis au Canada, d'avoir rencontré plusieurs personnes qui ont vécu une ou plusieurs migrations, mais l'identité, ça me semble que nous, c'est notre être au monde en relation avec les autres. Donc, on est tout le temps en relation aux autres. On doit se mettre en relation aux autres pour exister. Donc, là, ça naît l'identité, comme on est vu, comme on apparaît dans les yeux des autres. Mais l'identité, ça me semble aussi que c'est aussi un travail d'écriture. Le fait de choisir comment rendre une histoire, quelle identité donner au livre, quelle identité linguistique, quel mot choisir. Mais ça me semble que tous les mots qu'on choisit, même quand on parle, par exemple là pendant qu'on est en train de parler pendant l'entretien, c'est tout un dialogue qui a toute une puissance, une importance de comment on se présente, comment on présente aux autres.
Ouais, on pourrait présenter ce roman comme le vol fragile des croyances religieuses, identitaires et culturelles.
Oui, peut-être ça, c'est l'un des éléments que me touche beaucoup, c'est l'importance des croyances et des croyances religieuses dans le monde. Aussi, le fait d'imposer un point de vue, qu'il soit un point de vue laïque ou avec la foi, donc religieux aux autres. Si tout le monde avait ses croyances et ne voulait pas les imposer aux autres, il n'y aurait pas de problème, mais on a tendance à vouloir imposer notre point de vue sur la réalité, donc aussi nos croyances. Et dans le roman, dans les trois parties du roman, André, le personnage principal, se trouvera à rencontrer des figures religieuses fortes liées à son passé. André est d'origine italienne, donc du passé chrétien-catholique.
On ne peut pas imposer d'identité à quelqu'un, c'est un peu ce qui ressort. Et ce qu'on voit également au fil de la lecture de ce roman, Le vol fragile des croyances, Mathias, c'est que notre identité, elle, se transforme au fil du temps.
Oui, se transforme. Et peut-être aussi, on prend, quand on est plus jeune, quand on est enfant, on est foisonné par les figures d'autorité. La famille, les éducateurs et éducatrices qu'on rencontre. Puis, à l'adolescence, peut-être on commence à essayer de choisir avec sa tête, mais c'est toujours difficile. Il y a le poids de la société, du sens commun, est très important. Et c'est progressivement peut-être qu'on prend de la maturité et qu'on aussi lié à la chance de la vie. Si on est dans un milieu qui permet aux personnes de choisir pour soi, qu'on continue à décider sur sa propre identité. Donc aussi, dans le cas du genre, si on réussit un moment à pouvoir choisir quel est le pronom qu'on voudrait que les autres utilisent pour nous appeler, donc il, elle ou elle. Et c'est dans le cas aussi du personnage Andrea qui se trouvera à se poser cette question et beaucoup d'autres dans le roman. Et donc, la transformation, oui, est tout le temps présente. Il me semble que c'est quelque chose que c'est lié vraiment à notre expérience de la vie, parce qu'on change ce que nous pensons des choses. Notre regard sur la vie change à l'adolescence, à la jeunesse, puis à différentes âge de la vie, et j'ai voulu dans le roman essayer de donner ça sur un seul personnage, sur le personnage d'Andrea. On suit Andrea sur trois moments de sa vie. Le roman est constitué de trois parties et l'idée au départ c'était de parler, de rendre trois temps présents d'Andrea. Donc, il y a eu tout un travail aussi sur le temps, sur le fait de comment le temps, certains moments, par exemple, dans la deuxième partie, le temps est très, la durée, c'est seulement de quelques jours, mais ça dure plusieurs dizaines de pages. Par contre, la fin, il y a plusieurs décennies qui passent dans la troisième partie, et ça, c'est peut-être aussi quelque chose que je ressens, que progressivement, que je deviens plus âgé, ça me semble que la vie m'échappe, que tout se devienne, va plus vite et que ce n'était pas la même sensation que j'avais il y a 20 ans.
Et Mathias, dans Le vol fragile des croyances, il y a plusieurs autres personnages qui gravitent autour d'Andrea, dont Andrea est amoureux, Monica.
Monica, oui. Monica, c'est la personne qui permet, grâce à l'amour, à Andrea d'essayer de se sentir à son aide pour questionner sa pluralité d'identité. Et aussi, ça lui permet de s'installer au Canada, où il se trouvera donc Andrea à aller vivre avec Monica et d'autres personnes qui au départ donc sont des amis de Monica, mais ensuite deviendront aussi la famille d'Andrea. Et Monica, c'est un personnage complètement différent dans le cas d'Andrea. C'est comme si Andrea, c'est un personnage qui se questionne tout le temps et qui a besoin pour vivre de se questionner. Monica se jette dans la vie et ne se questionne pas. Elle peut aussi sombrer dans ses angoisses dans certains moments, mais elle cherche pas de contrôler sa vie comme Andrea.
Je poursuis.
C'est lié à l'administration. Pour qu'on soit déclaré, qu'on soit visible sur papier aussi. Et Et c'est, mais finalement, ce que j'ai voulu travailler dans ce roman, par rapport aussi aux différents personnages, c'est très important parce qu'il y a un seul personnage vraiment qu'on voit tout le temps, Andrea, mais il y a beaucoup de personnages secondaires. Et tous ces personnages secondaires sont importants, mais c'était fait exprès parce que toute cette foule de personnages secondaires, toutes ces personnes ont leur qualité, leur singularité, que peut-être on pourrait voir comme de la bizarrerie, de l'étrangeté, mais c'est surtout que chaque personne est différente de l'autre. Et c'est sur ça que j'ai travaillé, le fait que les identités sont des illusions. Derrière ces identités, même d'hommes ou de femmes ou de personnes non-binaires, on est complètement différent. Chaque personne est singulière. Et donc, ça me semble toujours que ce serait plus simple de faire vivre chaque personne par sa singularité qu'essayer de les redéfinir dans une case bien précise.
Ben voilà, une excellente raison. Je rappelle donc, Mathias Carpulet, le titre de votre nouveau roman, Le vol fragile des croyances, c'est publié chez Tête Première. Merci beaucoup, Mathias Carpulet.
Merci beaucoup, René.
Coup d'œil sur le métier de libraire en France. Sur le site de Kikijo, on retrouve une vidéo où il est question du métier de libraire. On peut y entendre Nicolas, libraire à Lille, nous parler de sa vision positive de son métier.
Quand j'ai dit que je voulais être libraire, les gens, ils étaient là. Trop cool! Parce que je pense qu'il y a vraiment un truc de... Bon, déjà, j'ai des copains en général et de la famille qui sont lecteurs de base et qui ont un bon rapport au livre aussi. Donc, je pense que ça a facilité l'annonce... Enfin, l'annonce, il n'y avait rien à annoncer. Enfin, juste que, en gros, dire que j'étais libraire, c'était pas du tout choquant pour eux, parce que je lis tout le temps. Mais ils étaient là, mais c'est trop bien, t'as trouvé un métier de passion, c'est trop cool, évidemment, mais bien sûr, en fait, t'es né pour être libraire, t'es né avec des lunettes et un bouquin, comme ça. Mais en fait, tout le monde s'est dit évidemment pour moi, parce que j'étais là tout le temps avec mes bouquins. Mais c'est vrai qu'après, j'ai pas l'impression que ce soit un métier quand on dit qu'on a envie de devenir libraire, les gens ils sont pas là, non mais n'importe quoi. Enfin, c'est un métier qui est assez valorisé. En tout cas, je pense qu'en France, le métier de libraire il est assez valorisé parce qu'on a un truc un peu. Que je trouve un peu élitiste parfois, mais d'attachement à la culture et blablabla, et les classiques et Balzac, voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un truc un peu genre, enfin, il y a un regard qui est hyper positif sur le métier du livre en général. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est pas du tout difficile d'assumer qu'on est libraire, loin de là.
D'œil sur les nouveautés littéraires.
Écoutons Anne-Marie Villeneuve, éditrice aux éditions Druide, parler de l'album Courage, William Courage de Bertrand Gauthier, illustré par Cab.
Alors, Courage, William Courage, c'est un nouvel album super sympathique pour les 6 ans et plus, vraiment éduqué pour les enfants, je dirais, des deux premiers cycles du primaire. C'est un texte de Bertrand Gauthier, un auteur évidemment renommé, fondateur de la courte échelle, renommée en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur publié à travers le monde. Cab, elle, alias, en fait, c'est Caroline Bro, alias Cab, c'est une autrice de bande dessinée montréalaise. Elle est la créatrice de la série Hiver nucléaire, puis de U-Town, qui est une BD gagnante du prix BD List 2023 du meilleur album québécois. Elle aussi, ses albums ont été édités en plusieurs langues. Et Bertrand et Cab se sont connus en travaillant ensemble sur une série d'albums chez Fonfon. Bertrand et moi. Et ils ont aimé ça. Alors, ils ont récidivé. Qu'est-ce qui se passe dans leur album? On a un personnage qui s'appelle William, qui arrive à l'école et il s'aperçoit rapidement qu'il porte un prénom très populaire. On le voit hein, chaque année là, dans les listes des prénoms les plus populaires, William est en tête de liste. Et la preuve humoristique dans l'album, c'est que même son école se nomme l'école William W. William. Alors, William, c'est un enfant plutôt timide qui n'ose pas trop s'affirmer. Et ce dont il rêve, c'est que ses amis, surnommés Coco, Flo, Marco et Luno, décident de l'appeler, lui, Will, et effacent le Liam de son prénom. Il trouverait ça tellement cool. Mais par-dessus tout, il rêve que ce soit Soraya qui, la toute première, le nomme Will. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que le prénom de la petite fille a été choisi bien avant que Montréal ait une mairesse du même prénom. Je ferme la parenthèse. Alors, après de nombreuses hésitations, puis craignant toujours d'échouer, ben notre William va finalement choisir d'agir. Il sait que ce ne sera pas facile parce que Soraya, elle est déjà très populaire. Alors, le grand suspense, c'est quelle sera la réaction de Soraya à l'approche de William? Ben, ça, vous le saurez en lisant cet album. Un des grands charmes de l'album, c'est les illustrations, le vraiment colorées, vivantes, qui rappellent la BD. L'écriture, elle est épurée, percutante, peu de phrases, mais c'est très signifiant. Et les thèmes importants et profonds qui sont abordés avec beaucoup de simplicité, le courage, le doute, la fraternité, la détermination, la popularité, la franchise, sans oublier l'attirance sentimentale. Alors, en quelques mots, là, je vous dirais que c'est l'album que tout parent voudrait pouvoir lire avec son enfant qui revient de l'école le cœur gros parce qu'il n'est pas assez populaire, parce que la flamme de son cœur ne réagit pas comme il le voudrait, ce genre de thématique-là. Voilà.
C'était Anne-Marie Villeneuve des éditions Druid qui présentait l'album Courage, William Courage de Bertrand Gauthier, illustré par Cab.
Alors ici André Jacques, auteur de romans policiers, dont le dernier, Je Dombe, publié aux éditions Druid. Pour nous, les librairies indépendantes, c'est extrêmement important parce que c'est souvent là que les gens discutent avec les libraires qui leur présentent des suggestions. Et souvent, ils font une très, très bonne place aux auteurs québécois, contrairement des fois à certaines grandes chaînes qui se spécialisent dans l'auteur étranger. Puis on finit par être, quand on a adopté une librairie indépendante, c'est presque une famille. Je suis un fidèle parmi les fidèles et je sors rarement de là sans que les libraires m'aient suggéré telle nouveauté qui vient d'arriver et tout ça. Alors c'est ça, c'est cette espèce de côté familier. Puis cette présence des auteurs québécois dans les librairies indépendantes. Et tu sais, on n'a pas l'impression de rentrer dans, je sais pas moi, dans un supermarché où tout le monde se promène avec des roulettes et puis, ah, ce qui se vend, c'est ça, là, tu sais. Mais par contre, le libraire indépendant, lui, peut suggérer, il sait ce qu'on fait, souvent, il a lu nos livres, et ça, c'est important aussi. Et comme il les a lus, il peut les suggérer à des clients et tout ça. Cet aspect-là est extrêmement important. La proximité, la chaleur, l'intimité aussi qu'on peut avoir avec ces gens-là et avec le public, avec les gens qui sont là aussi.
Bonjour, ici Gabrielle Richer de la librairie de la coopérative de l'Université de Sherbrooke. Que pensez-vous de la rentrée littéraire actuelle? Un titre à ne pas manquer. J'ai vraiment hâte de voir, j'ai vu beaucoup de nouveautés. Celui que j'ai le plus hâte, c'est le palais de François-Henri Désérable. En fait, il s'agit d'une histoire semblable au contexte du livre du classique du parfum de Patrick Souskind qui se déroule dans l'univers des sommeliers. Donc, j'ai vraiment hâte de voir cette nouveauté-là qui va sortir à la mi-septembre prochain.
Coup coup d'œil sur le métier de libraire en France. Gabrielle Fliguer est libraire à Lyon, à la librairie Vivement Dimanche. Dans une vidéo intitulée « Les artisans de la fiction », il nous parle de son métier.
Pendant très longtemps, en fait, il y a eu plus d'offres que de demandes et tous les livres qui étaient publiés, on va dire tout le XXe siècle pratiquement, trouvaient leur public. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Et du coup, il y a beaucoup de livres, malheureusement, où des auteurs ont mis des années à l'écrire. Et en un mois, deux mois de table, on voit que si ça n'a rien passé pour eux, c'est plié. Donc ça doit être horrible pour des auteurs qui ont mis des années à écrire un livre, de voir qu'il est noyé dans une masse et qu'il ne s'en sort pas. Après, il y a toujours des livres qui finissent par s'en sortir. Il ne faut pas non plus être désespéré. Il y a quand même beaucoup de livres qui trouvent leur public. Mais voilà, il y a des mauvais livres qui se vendent, il y a des très bons livres qui ne se vendent pas, et inversement, il y a des très mauvais livres qui se vendent beaucoup. Enfin, tout est possible. Alors oui, c'est vrai qu'on ne sait plus tellement de nouveautés. Parfois, moi, je rêve d'avoir le temps de lire un livre du Moyen-Âge ou un livre épuisé. Ce serait le luxe absolu. Parce qu'il y a, effectivement, au fil du temps, les lecteurs nous forment aussi. Et quand on voit que depuis 20 ans, les gens nous disent « Ah ben ça, c'est trop bien, ça, c'est trop bien », on se dit « Ah ouais, il faudrait peut-être que je trouve le temps de le lire ». Et en fait, il y a toujours des nouveaux livres à lire et du coup, on n'a pas toujours le temps de... Moi, il y a plein de classiques que j'ai envie de lire que je n'ai pas lus. Et voilà, essayer de trouver un équilibre entre les nouveautés et le fond, c'est ce que je vais essayer de faire de plus en plus, mais ce n'est vraiment pas évident. Alors, mon conseil, il est tiré d'un film, qu'il n'y a pas beaucoup de films, je trouve, réussis sur la littérature, qui s'appelle « À la rencontre de Forrester ». Et il dit « Il faut écrire le premier jet avec le cœur et réécrire avec la tête ». Donc déjà, effectivement, voilà, faire sortir ce qu'on a besoin de faire sortir sur papier, et après prendre du recul et le réécrire avec la tête. Et du coup, dans le réécrire avec la tête, je place la lecture d'autres auteurs qui font qu'on va mettre en perspective son texte et essayer de voir est-ce que je le raconte d'une façon novatrice par rapport à d'autres, est-ce que... ou pas, en fait. Est-ce que j'apporte quelque chose, ma pierre à l'édifice, ou pas.
Eh bien, voilà que se termine cet épisode de votre émission littéraire La librairie Cochot. Je m'appelle René Cochot et j'ai la grande joie d'animer cette émission qui vise à mettre en valeur le travail des libraires et des librairies indépendantes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre chapitre de La librairie Cochot.
Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches ont d'honneur de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensez-vous qu'avec le temps, les négros muterés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre. Pyromanie pompier, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat. Bande d'hypocrites, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tout vous compartent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamique. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi, je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités. Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.